je décline toute responsabilité de la programmation musicale entre Vibra Suez et Biotine. Bienvenue, c'est le direct hein, qui continue ce matin sur l'antenne de Graphite. 94.9 pour ceux qui nous écoutent sur la bande FM, graphite.net pour ceux qui nous écoutent sur Internet. Nous sommes en direct, c'est vrai que le studio est assez animé avec Enrique ce matin, et c'est tant mieux. Enfin, c'est tant mieux pour vous qui nous écoutez. Pour moi, c'est pas génial, parce qu'à force de danser comme ça, je n'ai plus de souffle après, Enrique, pour tenir pendant une heure. Et oui, parce que Biotine, ça va durer une heure sur l'antenne de Graphite. C'est l'actualité scientifique. On va parler beaucoup de choses. J'ai encore l'impression que j'ai préparé une émission un peu trop importante en termes d'actualité scientifique. On va parler du cadmium, on va parler d'Artémis, on va parler de D'Artagnan, on va parler de la France libre, on va parler de la méningite. Voilà, c'est un programme assez varié, plus ou moins heureux, parce que l'actualité scientifique, elle est parfois assez, anxiogène. Mais bon, on va faire un petit peu le tour. C'est vrai qu'on va changer un petit peu d'ambiance, hein, tout simplement. Ah mais oui, mais vous avez dansé et rigolé pendant une heure, et maintenant un peu de sérieux. Heureusement que je suis ici pour apporter, Enrique, un peu de sérieux dans cette radio du samedi en direct sur l'antenne de Graphite. Samedi prochain, émission spéciale que nous aurons le 4 avril, parce que nous aurons pendant une heure la joie de pouvoir échanger avec Soroch Samier, qui est doctorant en bioprocédés, et on va discuter un petit peu avec lui sur c'est quoi être doctorant, c'est comment, d'où vient l'idée en fait de s'investir comme ça dans des formations scientifique assez longue. Et Soroch, il a participé à l'exercice ma thèse en 180 secondes, c'est-à-dire que c'est un vulgarisateur né, et il va pouvoir nous parler de son sujet de thèse et le titre qu'il avait proposé pour présenter de façon vulgarisée son sujet de thèse, c'est « Les vaches à lait d'aujourd'hui feront le carburant pour les avions de demain ». Ça paraît d'être prometteur, et on va échanger avec lui pendant une heure. Ça sera samedi prochain sur l'antenne de Graphite. Aujourd'hui, nous sommes le 28 avril et on est dans une émission Biotine classique. C'est l'actualité scientifique et c'est un peu de musique. C'est parti.
Biotine, l'émission de vulgarisation scientifique de Graphite.
Oui, Graphite, radio curieuse et radio sérieuse, avec cette émission qui va nous ramener à une certaine réalité scientifique. Bien sûr, il y aura pas mal de sujets que nous allons évoquer aujourd'hui pour commencer justement à sensibiliser sur certaines maladies. Aujourd'hui, le 28 mars, c'est la journée mondiale de la lutte contre l'endométriose. Cette maladie gynécologique, chronique, inflammatoire, elle peut être asymptomatique, mais elle peut également provoquer des douleurs parfois invalidantes, des problèmes d'infertilité, des symptômes intestinaux. Donc à l'occasion de cette journée de lutte contre l'endométriose, il y a pas mal d'actions, d'informations, de sensibilisation. Et c'est très bien, parce que c'est finalement un sujet assez... à la fois assez dramatique, mais qui avait été plutôt caché, on va dire, il y a quelques années. Mais là, voilà, ça revient un petit peu et c'est très bien. Et le fait d'avoir cette journée mondiale permet justement d'aborder ce sujet. 28 mars 1910, c'est le premier vol de l'hydravion d'un ingénieur français qui s'appelait Henri Fabre. Cet hydravion, il a un petit peu traversé sur 800 mètres l'étang de Berre. Hein, on est du côté de Martigues, hein, pas loin de Marseille, Bouches-du-Rhône. C'était en 1910. Et le 28 mars 1949, le physicien britannique Fred Hoyle invente un terme. Il est interviewé dans une émission de la BBC, nous sommes en 1949, et il invente le terme de Big Bang. Ce fameux Big Bang qui est, paraît-il, à l'origine de la création du monde, de notre univers, eh bien c'est lui qui invente ce terme en plein direct. Et ce terme-là de Big Bang, en 1949, eh bien il est encore d'actualité aujourd'hui. C'est quand on a parfois des formules qui sont vraiment incisives et vraiment efficaces, ça fonctionne très très bien. Et donc Fred Hoyle, alors le nom de Fred Hoyle quelque part on l'a un peu oublié, mais de ce physicien britannique, mais le terme de Big Bang bien sûr on l'a encore toujours d'actualité. Naissance de Claudius James Rich, il est né un 28 mars, c'est en 1787, on part dans le 18e siècle, on va partir à Dijon. C'est un voyageur, il va pas rester à Dijon, et c'est un archéologue, c'est un anthropologue qui va travailler essentiellement au niveau du 19e siècle, et il va travailler sur sur l'étude qu'il fait du site de Babylone, qui est considéré comme le point de départ des études mésopotamiennes. Claudius Rich, il est mort en Iran en 1821. Décès le 28 mars 1903 de Jean-Maurice Baudot. C'est un ingénieur en télégraphie français. Il est autodidacte et il est l'inventeur de ce qu'on appelle le code Baudot. Il a été utilisé par les téléscripteurs et puis il est aussi l'inventeur du télégraphe Baudot, hein, qui va améliorer la vitesse, l'efficacité des télégraphes de l'époque. Ça a été adopté de façon internationale. Ce qui est assez étonnant, c'est que quand même ce nom de Jean-Maurice Baudot n'est pas resté vraiment au niveau de la postérité, c'est un petit peu dommage. Il est décédé donc le 28 mars 1903, cet ingénieur et télégraphiste français. Voilà pour l'éphéméride de cette émission d'aujourd'hui sur l'antenne de Graphite. Et on va commencer un petit peu à feuilleter la revue de presse de l'actualité. Il faut dire que cette semaine, il y a eu pas mal de choses. On va commencer par une anecdote qui est assez intéressante que j'ai entendue sur, je crois, une grande chaîne de télé nationale. Je lui dis, tiens, qu'est-ce que c'est que cette information ? Le fait qu'on aurait peut-être retrouvé le vrai D'Artagnan, ça a fait parler un petit peu cette semaine, parce qu'on connaît D'Artagnan, ce célèbre mousquetaire qui fut le bras droit du roi Louis XIV. Alors évidemment, on pense tout de suite au personnage du récit d'Alexandre Dumas, mais en fait, ce D'Artagnan, qui s'appelait en réalité Charles de Batz de Castelmort D'Artagnan, il a bel et bien existé, c'est un vrai personnage réel, qui apparemment n'a rien à envier à son sosie fictif. Il est né dans le sud-ouest de la France en 1611 et il va entrer dans le corps des mousquetaires avant de se faire remarquer pour sa bravoure et sa loyauté. Il va participer ainsi à plusieurs missions militaires et diplomatiques assez importantes. Et puis il est assez fidèle à sa réputation de soldat courageux. Mais il va le finir par tomber au combat lors du siège de Maastricht, c'est en 1673. Et en fait, l'endroit de son inhumation ne sera jamais retrouvé. Pourtant, il y a une récente découverte qui ravive un petit peu la mémoire de D'Artagnan. Lors de travaux récents, il y a un squelette qui a été découvert dans la nef d'une église aux Pays-Bas, dans la ville même où justement ce célèbre soldat est mort, frappé par une balle de mousquet. Et il pourrait s'agir de n'importe quel personnage important, bien sûr. Cependant, il y a certains indices qui ont mis la puce à l'oreille des chercheurs qui ont étudié la tombe. Premièrement, l'emplacement de la sépulture à l'endroit de l'ancien hôtel. Eh bien, ça suggère qu'il s'agissait d'une figure royale ou quelqu'un qui était proche du pouvoir. Deuxièmement, il y a une pièce de monnaie française ainsi que les restes d'une balle de mousquet qui ont été retrouvés avec le squelette. Troisièmement, cette découverte, elle corrobore aussi les soupçons qui circulaient depuis plusieurs années, suggérant que ce mousquetaire aurait été enterré dans l'église de Volder. Alors pourquoi ? Parce qu'il est attesté que l'armée française avait établi un camp à proximité. Alors bien sûr, ça ne va pas suffire à affirmer qu'il s'agit bien des restes de D'Artagnan. Les spécialistes ont donc prélevé un échantillon d'ADN sur les dents du squelette. Son analyse ADN est en cours et ça va reposer sur la comparaison de cet ADN avec celui d'un descendant du capitaine des mousquetaires qui appartient donc à cette lignée des Bertrand de Batz de Castelmort. C'est donc la lignée du père de D'Artagnan. Alors, les chercheurs, ils restent prudents, mais bon, quand même, ça fait parler, ça excite un petit peu le monde, finalement. Ah, on aurait retrouvé le corps de D'Artagnan, une excitation qui grandit aux Pays-Bas et en France, dans ce qu'on en a entendu parler cette semaine. Les résultats se font attendre avec impatience, on le saura bientôt, je l'espère, et puis on pourra en parler dans cette émission. Parce que si les tests ADN le confirment, eh bien, ce serait quand même une découverte d'une grande importance historique, aussi bien pour les Pays-Bas que pour la France. Donc voilà, on aurait peut-être retrouvé les restes de D'Artagnan dans une église aux Pays-Bas. Affaire à suivre, bien sûr, c'est assez... c'est une petite enquête comme ça que l'on va pouvoir mener ensemble. On verra. Pour l'instant, il n'y a pas plus d'informations. Et puis, tout le monde attend les résultats de ce test ADN. À voir, bien sûr, à suivre, bien évidemment. Du côté de l'actualité, plutôt santé, médicale, on a cette alerte qui a été lancée cette semaine. En fait, c'est pas tout récent que l'on parle du cadmium. Déjà au mois d'août dernier, l'association de consommateurs UFC Que Choisir alertait sur la présence en quantités inquiétantes de cadmium dans le chocolat et dans tous les produits chocolatés. Cet avertissement, en fait, faisait suite à un courrier de la Conférence nationale des unions régionales des professionnels de santé médicale médecins libéraux. Il s'inquiétait en fait de l'exposition de la population française au cadmium. Ça date de août dernier. Sauf qu'aujourd'hui, c'est au tour de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de tirer la sonnette d'alarme. Il y a une nouvelle expertise qui a été publiée cette semaine, le 25 mars, je crois que c'était mercredi, il me semble. Et cette nouvelle expertise évaluait les sources et les voies d'exposition à ce métal lourd. Le cadmium, c'est du métal lourd. Et cette nouvelle expertise confirme une surexposition de la population française au cadmium par l'alimentation. Alors, selon Géraldine Carne, qui a coordonné cette expertise, je cite, « Si les niveaux actuels se maintiennent et qu'aucune action n'est mise en place, des effets néfastes à terme sont probables pour une part non négligeable de la population. » Donc là, au moins, l'avertissement est assez clair. Le cadmium qui est présent dans de nombreux aliments courants, parfois à des taux extrêmement élevés, ce cadmium est en effet considéré comme un contaminant préoccupant pour la santé publique. Le Centre international de recherche sur le cancer classe le cadmium comme cancérogène, mutagène et toxique pour la reproduction, rien que ça. Et s'il est consommé en excès, il augmente le risque de cancer, notamment du pancréas, de troubles rénaux. Il augmente aussi le risque de fragilité osseuse et de maladies cardiovasculaires. Selon le rapport donc de l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité sanitaire, l'alimentation représente jusqu'à 98% de l'imprégnation au cadmium dans la population française qui ne fume pas. Parce qu'en plus, le tabac est un grand pourvoyeur de cadmium. Donc là, on prend uniquement ceux qui ne fument pas. Et à peu près, presque la moitié des Français adultes affichent des niveaux de cadmium supérieurs aux repères sanitaires. Et tous les enfants âgés de 2 à 3 ans dépassent les limites. Enfin, c'est quand même assez effrayant. L'imprégnation des Français serait jusqu'à 3 à 4 fois supérieure à celle observée dans d'autres pays d'Amérique du Nord ou d'autres pays d'Europe. Et ça continuerait d'augmenter de manière inquiétante. Pourquoi le cadmium est si important en quantité dans les aliments ? C'est en raison notamment de la contamination des sols agricoles. En France, il provient en grande partie de l'utilisation de fertilisants, en particulier des engrais qui sont utilisés, qui sont des engrais minéraux phosphatés qui proviennent du Maroc, nous dit-on, et dans les pays producteurs de cacao, surtout en Amérique du Sud, il est présent naturellement dans la roche. Donc là, c'est un petit peu plus compliqué. Les experts de l'ANSES appellent à promouvoir de nouvelles pratiques agricoles permettant de diminuer les teneurs en cadmium des produits. Mais parce que ces changements vont prendre du temps, il va falloir ajuster, réajuster notre alimentation pour essayer d'atténuer notre exposition au cadmium. Alors l'analyse de l'ANSES a permis de constater que les aliments les plus contributeurs sont à la fois des produits fréquemment consommés et contaminés par le cadmium, et les féculents sont en première ligne. Le pain, les pommes de terre font en effet partie des aliments de nos quotidiens qui contribuent le plus fortement à notre exposition au cadmium. Et il y a également les pâtes, le riz, les viennoiseries, les pâtisseries, les gâteaux, les biscuits sucrés, tout ça contribue à plus de la moitié de la part de la source alimentaire, justement pour l'imprégnation humaine. Donc, il va falloir lever le pied, bien évidemment, sur les aliments les plus riches en cadmium, mais aussi sur ceux qui n'ont pas forcément les teneurs les plus élevées, mais que l'on consomme souvent. Et puis, il va falloir remplacer certains de ces produits par d'autres qui contiennent peu de cadmium, voire pas du tout. Alors, comment réduire son exposition ? L'article de Futura Science, qui est paru cette semaine suite à cette annonce, donne quelques pistes. Il y a deux catégories d'aliments qui méritent notre attention. Ceux qui présentent des doses particulièrement élevées de cadmium et ceux qui ont des teneurs plus modérées mais que l'on consomme souvent. Alors, à consommer avec parcimonie, ça va être le chocolat noir, les rognons et les moules. C'est vrai que c'est assez varié. Parce qu'on considère ces trois aliments, rognons, moules et chocolat noir, on les nomme comme des bombes de cadmium. Alors ça veut dire qu'il y en a quand même pas mal. À diminuer fortement les crustacés, les mollusques et tout ce qui est confiserie, notamment confiserie au chocolat, même chocolat au lait. Et puis à manger moins fréquemment les pommes de terre, les céréales pour le petit déjeuner, surtout celles qui sont chocolatées, parce que là c'est quand même double peine, double dose. Le pain, les biscottes, les petits pains suédois, qu'ils soient complets, semi-complets, raffinés, les viennoiseries, les pâtisseries, les gâteaux, les biscuits sucrés, les abats au sens large, les pâtes, le riz, le blé complet. Alors là, mon Dieu, ça va être assez difficile. Et l'ANSES donne quelques recommandations pour notamment comment on peut se passer en France de pain et de pommes de terre. C'est vrai que ça va pas être simple. Eh bien, les experts de l'ANSES recommandent de se tourner vers les recommandations du Plan National Nutrition Santé qui incite à réduire la part des céréales et de la pomme de terre et à se tourner davantage vers les légumineuses, à savoir les pois chiches, les haricots secs, les lentilles, qui présentent une teneur en cadmium moindre, donc ça peut être intéressant, et ils offrent également des teneurs bien plus intéressantes que les céréales raffinées, la pomme de terre, notamment des teneurs en fibres, en protéines, en potassium, en fer, en magnésium et en vitamines. Donc voilà, il va falloir essayer de s'adapter. Alors, c'est quelque chose qui nécessite bien sûr de l'attention, c'est quelque chose qui va pas pouvoir se mettre comme ça rapidement sur un claquement de doigts, c'est des notions qu'il va falloir appréhender sur le moyen et le long terme, mais en tout cas, voilà, ça a fait parler cette semaine. Alors, faut dire que l'actualité au sens large était assez riche cette semaine, donc cette information est passée un petit peu au milieu des autres, entre l'Iran, l'Ohana et les élections municipales, mais en tout cas, voilà, c'est quand même une, comment dire, une recommandation, une alerte même, pardon, c'est une alerte de l'Agence nationale de sécurité sanitaire. Donc, nous sommes informés, à nous maintenant, de pouvoir agir, voire réagir. Voilà, on va écouter un petit peu de musique, parce que je vous ai bien plombé l'ambiance. En plus, vous êtes peut-être en train de déjeuner, vous êtes en train de regarder ce qu'il y a dans votre assiette. Voilà, vous êtes informés, maintenant, nous sommes informés, et advienne que pourra. On écoute Nike Waterhouse sur l'antenne de Graphite. À tout de suite. Well, it's fine, c'était Nick Waterhouse sur l'antenne de Graphite.
Jean-Noël Moreau, Biotine, sur Graphite.
Alors, pas mal de choses. On va partir dans l'espace maintenant. Pas mal de précipitations d'ailleurs en ce qui concerne la mission Artemis 2. La NASA accélère un petit peu ses travaux pour aller vers un lancement imminent après de multiples retards, hein, parce que les choses apparemment semblent enfin se préciser pour le lancement de la mission Artemis 2. La NASA a donc officiellement donné son feu vert pour un décollage au plus tôt le 1er avril, donc ça va être la semaine qui arrive. Après deux simulations de lancement qui avaient mis en évidence plusieurs problèmes, eh bien la fusée SLS avait en effet dû être rapatriée au bâtiment d'assemblage pour subir un petit peu les réparations qui étaient nécessaires. Alors les opportunités de tir qui avaient lieu en février, puis en mars, bah, toutes ces opportunités, ça s'est envolé. Ça laisse qu'un espoir, eh bien, que la fusée soit prête à temps pour la fenêtre d'avril. Et la fenêtre d'avril, on y arrive bien sûr. Et il semblerait que ça soit justement la bonne opportunité. La NASA annonce en effet que la fusée peut être acheminée sur le pas de tir, où elle va donc pouvoir être préparée minutieusement pour le lancement. Alors, a priori, il n'y aurait aucune nouvelle simulation de lancement qui ne sera réalisée, le dernier test ayant été considéré comme réussi, malgré un petit problème de flux d'hélium, nous dit-on. Pour rappel, durant ce test qui avait été fait grandeur nature, eh bien, toutes les opérations du lancement sont vérifiées les unes après les autres lors d'un compte à rebours qui est stoppé seulement à quelques secondes de l'allumage. Donc on fait le test, mais au dernier moment, on arrête. Et pour l'instant, les résultats semblaient être bons. Donc, on a une fenêtre de tir qui semble s'ouvrir cette semaine. On suivra bien sûr cela. Alors, on ne sera pas en direct, hein, parce que si c'est mercredi, on nous dit même. Alors, la première fenêtre de tir, c'est le 2 avril à minuit 24. Dès que ça doit être dans la nuit de mercredi à jeudi, précisément à minuit 24, j'aurais pas la possibilité d'être derrière ce micro sur Graphite, mais bon, vous pourrez suivre bien sûr, et puis on fera un petit peu le point lors des prochaines émissions d'avril sur l'antenne de Graphite. Ça peut être reporté au 3, au 4, on n'en sait rien. En tout cas, si on loupe les 6 jours consécutifs à partir du 1er avril pour cette première fenêtre de tir, il y aura une autre opportunité de lancement à partir du 30 avril, donc c'est même pas certain. On verra tout ça, bien sûr. Et ce lancement de cette mission Artemis 2, eh bien, permet d'avoir plein de petits articles que l'on peut trouver un peu partout. Alors, je vous ai récupéré au moins 3 articles sur le site de Futura Science qui nous parlent déjà du quotidien des astronautes avant leur voyage autour de la Lune, hein, depuis des mois, voire des années. Eh bien, les quatre, ils s'appellent Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch et Jeremy Hansen. Ils travaillent tous quatre d'arrache-pied pour être prêts pour cette mission historique, parce que ça va marquer le grand retour de l'humanité, de l'homme, de la femme autour de la Lune. C'était la dernière fois en 1972, c'était la mission Apollo 17, une mission donc cette année qui va durer que 10 jours, mais qui prévoit d'être intense et au cours de laquelle chaque geste va compter. Alors, sur les réseaux sociaux, les astronautes partagent de brefs moments de leur journée de travail. On découvre qu'elles sont bien plus diversifiées qu'on pouvait le penser, donc vous pouvez un petit peu suivre les réseaux sociaux de ces différents astronautes. Alors, il y a bien sûr des séances assez classiques dans les simulateurs, mais il y a eu pas mal de choses. Christina Koch, elle a par exemple suivi des cours de géologie de terrain en Islande. Et puis, Reid Wiseman et Jeremy Hansen se sont entraînés à photographier la Lune. Effectivement, puis j'espère qu'ils auront des bons appareils photo. Les astronautes n'auront qu'un seul passage au-dessus de la surface de la Lune avant de revenir vers la Terre. Donc, ce n'est pas le moment de se louper, bien évidemment. Il faut être au point et pouvoir rapidement identifier et documenter les structures géologiques d'intérêt. Donc ça, c'est le premier article. Le deuxième article, c'est le fait que la NASA va tester sur ses astronautes et les tester face à l'un des pires dangers de l'espace, parce que contrairement aux missions classiques en orbite basse, eh bien ça concerne par exemple la Station Spatiale Internationale. Là, c'est autre chose, on va aller sur la Lune. Donc Artemis 2, elle va emmener son équipage bien au-delà de la zone terrestre, de ce qu'on appelle notamment la magnétosphère, cette espèce de bulle un peu qui va qui protège, qui est générée par le champ magnétique de la Terre. Et donc, ils vont aller au-delà de ça. Et dans cette région de l'espace, les astronautes seront exposés à un environnement radiatif beaucoup plus intense. Et cette mission, elle va pouvoir valider des systèmes de navigation, de communication et aussi des capacités de protection contre les radiations. Donc ils vont pas là-bas pour une partie de plaisir. Ils vont... Enfin, ça va être assez intense, hein. C'est quand même des voyages assez éprouvants, bien sûr. Donc, l'objectif, c'est de préparer les futures missions Artemis, dont Artemis 3. La mission Artemis 3, je rappelle le principe, c'est de retourner sur la surface de la Lune. Et puis, à long terme, eh bien, c'est l'idée d'avoir des voyages habités aussi vers Mars. Donc là, on démarre enfin. Je vous ai toujours dit, il y a quand même plusieurs années que je vous dis que la décennie 2020 va être fantastique. Là, ça y est, enfin, je veux dire, ça commence à être concret. Et on va aussi s'intéresser au Soleil. Et c'est ça qui est intéressant dans cette mission Artemis 2 qui va avoir lieu dans les prochains jours. Le Soleil, source d'énergie bien évidemment, qui rend la vie possible sur Terre, mais le Soleil, c'est une espèce de machine extrêmement dynamique qui est capable de libérer de façon assez rapide des quantités colossales d'énergie. Et plus, parmi les phénomènes les plus violents figurent ce qu'on appelle les éruptions solaires et des éjections de masse coronale. En fait, ça va projeter dans l'espace des quantités vraiment immenses, importantes de particules qui sont chargées, qui vont parfois être accélérées à des vitesses proches de la lumière, et lorsqu'elles atteignent le vaisseau spatial d'Artemis, ces particules, elles constituent ce qu'on appelle des radiations ionisantes, c'est-à-dire ce sont des particules énergétiques qui sont capables d'interagir avec les matières, d'arracher des électrons aux atomes. Enfin bref, c'est quand même pas c'est pas rien, il y a une vraie puissance derrière qu'il va falloir maîtriser. Et ce processus peut endommager les cellules vivantes, et notamment ça peut agir sur l'ADN. Alors sur Terre, les particules, elles sont en grande partie déviées par ce champ magnétique terrestre et donc cette idée de bulle protectrice, donc ça on ne le connaît pas, ou très très peu. Mais dans l'espace lointain, si on est en dehors de cette bulle protectrice, bien les astronautes, ils sont un petit peu vulnérables, ils se trouvent dans des conditions qu'il va falloir, ils ont intérêt à être protégés. Donc cette exposition excessive à ces tempêtes solaires, qui sont en plus invisibles, eh bien ça peut augmenter le risque de cancer, nous dit-on, ça peut affecter le système nerveux, ça peut perturber aussi les capacités cognitives. C'est donc un enjeu critique pour une mission habitée à long terme, bien évidemment. Et donc, face à ce risque, la NASA met en place une espèce de stratégie de surveillance en temps réel particulièrement sophistiquée. Il y a des satellites qui vont être dédiés à l'observation du Soleil. Il va y avoir d'autres satellites qui vont avoir pour objectif de détecter les signes avant-coureurs d'une éruption solaire. Donc, ça va être assez contrôlé de façon minutieuse. Et plus surprenant, la mission, elle va mobiliser aussi des instruments situés sur Mars, parce qu'il y a le rover Perseverance qui est sur Mars, là, qui nous attend là-bas. Il peut en effet observer des régions du Soleil qui sont invisibles depuis la Terre. Et du côté de Mars, on peut voir une autre partie du Soleil. Donc, on va pouvoir mobiliser Perseverance. L'idée, c'est de récupérer, bien sûr, des informations sur ce qui se passe au niveau du Soleil, et ça permet justement de pouvoir essayer de prédire ces éruptions grâce à toutes ces informations. Donc ça va être assez contraignant d'un point de vue ces radiations ionisantes, bien évidemment. Et puis, dernier article que j'ai trouvé, c'est que c'est pas non plus confort, on va dire, parce que les astronautes d'Artemis 2, ils vont se préparer à passer 10 jours dans 9 mètres carrés. 9 mètres carrés, c'est quand même assez petit. Tous les quatre vont vivre en fait un peu à l'intérieur d'une boîte de conserve, ce qui correspond en fait 9 mètres carrés au volume de deux monospaces accolés. C'est donc un espace extrêmement réduit pour 4 personnes. Ils vont dormir, manger, réaliser des expériences, aller aux toilettes, faire de l'exercice. Alors, il faut quand même aimer la proximité, ils ont intérêt à bien s'entendre, parce que sinon, ça risque d'être assez compliqué. On est loin, bien sûr, du confort, entre guillemets, de la Station Spatiale Internationale, avec ses 8 mètres cubes. Là, on est sur 9 mètres cubes. Oui, j'ai dit 9 mètres carrés, je crois, tout à l'heure. C'est 9 mètres cubes. C'est vraiment petit. 9 mètres cubes, enfin, je ne sais pas comment ils vont faire. Alors, il y a une intimité qui est possible, relative sur la Station Spatiale Internationale, bah alors ceux qui sont dans la mission Artemis 2, alors là, dans un cube de 9 mètres cubes, alors là, c'est pas la peine. Et donc, eh bien, il va falloir justement essayer d'agencer ce module de façon assez... qui va permettre de pouvoir à la fois vivre et aussi agir, c'est-à-dire de pouvoir faire les expériences qui sont attendues, les différentes actions. Alors, il y a eu de nombreuses simulations et de répétitions de chaque phase du vol qui ont permis justement, tous ensemble, de souder les membres de l'équipage. Ils ont déjà travaillé ensemble depuis un certain temps, donc il n'y aura pas de mauvaise surprise, ils se connaissent déjà. L'idée, c'est de pouvoir apprendre à essayer de coopérer en situation de stress et d'urgence, c'est ça aussi ce qui est important. Connaître et anticiper les réactions de chacun, c'est primordial. Et au-delà de la préparation de l'équipage, eh bien, la cabine du vaisseau a été pensée pour optimiser au maximum cette espèce d'espace totalement restreint et de permettre aux astronautes de vivre correctement pendant les 10 jours. 10 jours, c'est quand même long quand on est dans une boîte de conserve. Afin de gagner de la place, donc les sièges dans lesquels l'équipage sera sanglé lors du lancement, eh bien, ils pourront être escamotés durant le reste du vol. Il faut aussi se souvenir qu'une fois dans l'espace, eh bien, les astronautes seront en microgravité. Ils auront donc accès à l'ensemble du volume de la cabine, pas seulement à une surface, mais donc ils vont pouvoir voler entre guillemets dans une boîte de conserve. Les différentes activités, elles seront donc dispersées au niveau de l'ensemble des parois du vaisseau. Pour dormir, les astronautes vont s'insérer dans des sacs de couchage qui seront accrochés aux parois comme des hamacs. Un temps de sommeil de 8 heures est prévu. Tous dormiront en même temps. Et puis, chacun va bénéficier de 30 minutes par jour pour faire des exercices physiques afin de minimiser, bien sûr, la perte osseuse et musculaire due à la pesanteur. Il n'y a pas d'équipement volumineux que l'on peut trouver parfois dans la Station Spatiale Internationale. Il n'y aura qu'une roue d'inertie, un équipement très compact qui fera également office de marchepied pour entrer dans la cabine. Donc, c'est vraiment assez minimaliste. Pour ce qui est de l'hygiène personnelle, la NASA nous dit qu'elle a prévu un petit compartiment sous le plancher de la capsule où les astronautes pourront s'isoler pour aller aux toilettes, tant mieux, se brosser les dents, se débarbouiller. Alors, il n'y a pas de douche, hein, ça sera des lingettes humides qui leur seront distribuées pendant 10 jours, ça va être sympa. Et en dehors des tâches qui leur seront assignées, eh bien, les 4 astronautes auront également un peu de temps pour se détendre, un moment essentiel pour garder le moral, bien sûr, et aussi rester productif, concentré le reste du temps de la mission. Alors, si les distractions seront bien sûr moins nombreuses que dans la Station Spatiale Internationale, pourront toutefois chacun accéder à l'ordinateur portable ou une tablette où ils vont trouver des jeux, des films, de la musique, mais aussi des moyens de communication avec leur famille. Alors, il est cependant fort à parier que les astronautes vont profiter d'autre chose, d'un autre spectacle. Eh bien, c'est les 4 hublots qui sont prévus de la capsule pour pouvoir observer la Lune et la Terre. C'est vrai qu'à mon avis, c'est quand même plus intéressant de regarder une série sur Netflix. Comme le dit Jeremy Hansen, qui est l'astronaute de l'agence spatiale canadienne, il dit « Je n'emporte rien vraiment pour me distraire. En fait, j'espère m'ennuyer un peu à un moment donné pendant la mission pour simplement réfléchir », dit-il. Effectivement, 10 jours, c'est court, c'est long. Enfin bref, c'est assez particulier. Quand on est 10 jours dans une boîte de conserve avec la vue sur la Lune et la Terre, c'est assez original, effectivement, comme expérience. Allez, on va continuer à feuilleter la revue de presse de l'actualité scientifique. On va parler, si on a encore le temps. Oui, on a le temps. Il est 12h35 sur l'antenne de Graphite. On va parler du porte-avions France Libre, juste après ce nouveau titre. Sur l'antenne de Graphite, à tout de suite.
could be sold. Another day of my life has gone. Another day of my life has turned to dust. Another day of my life has gone.
Russ, c'était à Kay sur l'antenne de Graphite.
Biotine, Jean-Noël Moreau.
Alors, on va continuer à feuilleter la revue de presse Actualité Scientifique. On va parler du porte-avions France Libre. C'est le nom qui a été donné par le président Emmanuel Macron il y a quelques jours. Il a dévoilé donc ce nom devant la maquette de France Libre. C'était sur le site de Naval Group près de Nantes. Alors, il a dit, pendant qu'il inaugurait cela, que le nom de France Libre, ce n'est pour lui l'avenir, pour l'avenir un serment. Pour rester libre, il nous faut être craint. Pour être craint, il nous faut être puissant. Et pour être puissant, être prêt aux efforts. C'est ce qu'il a dit. Effort. Effectivement, parce que la question de l'effort porte également sur le coût de construction du navire qui sera environ de 10 milliards d'euros et le nom d'attente pour l'instant, alors maintenant on sait que c'est France Libre, avant ça s'appelait le PANG, P-A-N-G, c'était porte-avions de nouvelle génération. Ce porte-avions devrait prendre la mer en 2038, donc c'est quand même pas pour demain, quoique en termes de, d'échéance c'est plutôt assez raisonnable. Le porte-avions sera long de 310 mètres, sa masse 80 000 tonnes, c'est-à-dire presque deux fois supérieure sa masse à celle du porte-avions Charles de Gaulle. Alors difficile quand même de comparer l'actuel porte-avions à ce porte-avions France Libre, parce qu'il sera plus volumineux, sera taillé pour durer aussi. Alors, globalement, il va se rapprocher du gabarit de l'actuel porte-avions américain qui s'appelle le Gerald Ford, qui sera même en plus un peu plus large apparemment. Il s'agira donc à la fois d'une base aérienne flottante, d'un centre de commandement, d'une plateforme numérique évolutive capable de mener des opérations de combat en interconnectant des aéronefs, des capteurs et même de l'intelligence artificielle, nous dit-on. Alors d'ici 2038, je pense que la technologie va évoluer et on sera peut-être beaucoup sur, enfin, sur des choses un petit peu plus différentes, on va dire. Enfin, on verra ça. Plus que des avions de chasse, bien cette base flottante, elle va porter des systèmes aériens de combat collaboratif, à savoir des avions pilotés associés à des drones de surveillance, et puis aussi deux réacteurs nucléaires. Donc ça, ça a été présenté donc, il y a quelques jours, hein, je crois que c'était la semaine dernière, il me semble, de mémoire, où on a pu savoir enfin le nom de ce nouvel porte-avions, nouveau porte-avions. Alors ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a un nouveau système qui existe de catapultes, parce que seront électromagnétiques, ces catapultes, et elles vont pouvoir être une espèce de rail qui va être mise en place sur un chariot au niveau du porte-avions. C'est des systèmes qui sont assez récents et qui ne sont pas nécessairement encore bien bien développés dans les autres porte-avions. Enfin, les autres porte-avions, on n'a pas tant que ça, parce qu'il y a quand même que trois pays qui disposent de porte-avions dotés de catapultes. C'est les États-Unis, la Chine et donc maintenant la France. Mais ça permet justement de pouvoir être beaucoup plus réactif face aux missiles hypersoniques. Donc on est sur des technologies qui évoluent rapidement et on suivra un petit peu ces technologies militaires également, parce qu'il y a toute une technologie scientifique derrière assez intéressante. Et on va essayer de suivre un petit peu ça d'ici 2038 si je suis encore à l'antenne, bien évidemment. Ce qui est assez intéressant, aussi anecdotique, c'est qu'on a vu cet article du Monde assez récemment qui a mené une d'enquête et qui, le quotidien Le Monde, est parvenu à localiser presque en temps réel le porte-avions Charles de Gaulle au milieu de la Méditerranée. Vous avez peut-être suivi ça. Et comment ils ont réussi à localiser le porte-avions Charles de Gaulle? Parce qu'il y avait un marin qui était sur le Charles de Gaulle qui utilisait une application sportive qui s'appelle Strava, que vous connaissez sûrement. Et l'idée, c'est de pouvoir collecter les données de ces footings qu'il faisait sur le pont du navire. Et donc, ils ont pu, lemonde.fr, essayer de récupérer, de pouvoir, comment dire, identifier la zone où se trouvait ce marin et donc la zone où se trouvait le porte-avions. Le déplacement du groupe aéronaval vers l'Iran n'était pas un secret, ça avait été annoncé, mais sa géolocalisation précise en temps réel, elle pose en revanche de vrais problèmes de sécurité. Alors comment ces données ont-elles pu être accessibles aux journalistes du Monde? Eh bien parce que Strava, c'est une application populaire, compatible avec pratiquement toutes les montres connectées bien évidemment, et que les données des utilisateurs, elles sont accessibles publiquement par défaut. Et le problème, c'est que c'est pas la première fois qu'une telle faille de sécurité a été mise en avant à cause de Strava. L'année dernière, il y a eu des marins d'un équipage d'un sous-marin nucléaire longeur d'engin. Enfin, on est quand même sur des simulations qui se font sous l'eau, et donc on arrive quand même à pouvoir les identifier. Alors, on pouvait pas localiser le sous-marin et ses départs et retours. C'était plutôt discret. Par contre, on arrivait quand même à avoir une géolocalisation assez précise grâce à cette application Strava. C'est-à-dire que ça a dû gueuler quand même au niveau de l'état-major et que à partir du moment où ça a été révélé par Le Monde, bien sûr, on était sur des choses qui, on se dit, Le Monde, on était plutôt dans quelque chose de bienveillant quelque part, bien sûr, c'est pas toujours le cas de tout le monde dans d'autres pays du monde, bien évidemment. Alors, le fait d'avoir justement cette faille de sécurité au niveau de Strava qui a été révélée par Le Monde fait en sorte qu'au niveau de l'état-major, on va pouvoir restreindre de façon un petit peu plus contraignante en France, mais aussi sur les autres, au niveau des États-Unis également, et demander aussi à Strava de pouvoir renforcer ses paramètres de sécurité, de faire attention justement à ces données qui sont accessibles, ces données de géolocalisation qui sont accessibles de façon, comment dire, de façon assez facile en fait. Enfin, je veux dire, c'est quand même assez inquiétant. Dernière information, cette fois au niveau médical, qui était aussi un petit peu l'actualité de ces derniers jours, alors on passe vraiment du coq à l'âne, les nombreux cas de méningite qui ont été identifiés en Angleterre, notamment dans une ville étudiante, la ville étudiante de Canterbury. La semaine dernière, il y a eu 5 nouveaux cas qui avaient été identifiés, donc on est à près d'une trentaine de personnes infectées depuis le vendredi 13 mars. Et puis, pour l'instant, on avait dénombré 2 morts. Selon plusieurs experts, le fait d'avoir un si grand nombre de cas de méningite dans si peu de temps, c'est assez exceptionnel. Certains parlent même d'un événement de super propagation. Le ministre de la Santé britannique a indiqué que la majorité des cas sont liés à la boîte de nuit, le Club Chemistry. C'était entre le 5 et le 7 mars. C'est un nightclub qui est fréquenté par les étudiants de la ville. Il a été conseillé aux médecins généralistes de prescrire des antibiotiques à toutes les personnes ayant fréquenté ce lieu, ainsi qu'aux étudiants de l'université du Kent. Alors, il y a donc eu à peu près 2500 doses d'antibiotiques qui ont été administrées, 5000 étudiants vivant sur le campus qui ont été vaccinés. L'objectif, bien sûr, c'est de protéger la population, enrayer l'épidémie pour éviter qu'elle ne se propage à l'échelle nationale. En fait, il y a eu un communiqué du ministère de la Santé britannique qui expliquait ce qui nous inquiète concernant l'épidémie de Canterbury, c'est la rapidité et l'ampleur de la propagation de la maladie. C'est sans précédent et c'est pourquoi nous sommes si proactifs dans la fourniture d'antibiotiques, car elle constitue, dit-il, un traitement efficace, mais aussi dans la mise en place de la vaccination à un rythme et une manière que nous n'adopterions pas en temps normal. J'espère que cela rassurera quelque peu la population, c'est ce qu'explique le ministre de la Santé. La méningite, en fait, c'est une infection bactérienne très grave qui touche la moelle épinière et qui touche également les membranes qui vont entourer le cerveau. Ce sont les fameux méninges, dont le nom de méningite. Même avec des traitements, cette infection est associée à un taux de mortalité assez élevé. Une personne sur 10 en décède, nous dit-on. Et elle se traduit par de la fièvre, des maux de tête violents, des vomissements et aussi ce qu'on appelle un syndrome méningé, c'est-à-dire une espèce de raideur au niveau de la nuque, des léthargies, des troubles de la conscience. voire coma également. Donc les symptômes sont quand même assez violents, assez forts. Les complications les plus fréquentes de la méningite sont des atteintes neurologiques, en particulier la surdité. Et lorsque les bactéries infectent le sang, eh bien les extrémités du corps peuvent devenir froides. Des douleurs musculaires, des douleurs articulaires sont également peuvent apparaître. Et ça a fait quand même bien sûr beaucoup parler en Angleterre, parce que ce qui était assez inédit dans ce cas-là, c'était un petit peu la fulgurance de cette épidémie qui, faut dire, cette information, elle permettait de pouvoir relancer les campagnes de vaccination. En France, il est conseillé pour les adolescents de se vacciner entre 11 et 14 ans. Il y a un rattrapage vaccinal contre les méningocoques qui peuvent également être recommandés entre 15 et 24 ans pour les personnes qui n'ont pas été vaccinées jusque-là. Donc, ce mal, cette épidémie qui est venue d'une façon assez impulsive, a peut relancer cette campagne de sensibilisation et cette campagne de vaccination. Voilà, alors on écoute un dernier titre, puis on va bientôt se quitter, parce que c'est bientôt la fin de cette émission. Bientôt 13h. Ah bah j'appuie sur un bouton en même temps, je suis quand même... Allez, on écoute No More Roses sur l'antenne de Graffiti, à tout de suite. No More, c'était Roser sur l'antenne de Graffiti.
Jean-Noël Moreau.
J'ai envie de vous plomber l'ambiance encore, mais parce que l'actualité scientifique, elle est comme ça, hein, je suis désolé. Hein. Je vous promets, alors je vous dis la semaine prochaine, hein, je reviendrai tout à l'heure sur l'émission de la semaine prochaine, et puis dans 15 jours, j'essaierai de faire une... J'ai trouvé plein d'articles sur les chats, on fera une émission, une thématique sur les chats dans 15 jours, je vous le promets, comme ça, ça sera plus gentil, plus mignon, parce que là, je vais vous parler de la fast fashion. Vous savez, ces vêtements pour enfants qui sont vendus à quelques euros seulement, issus de ce qu'on appelle donc la fast fashion. Ça séduit de nombreuses familles, bien sûr, parce que face à l'inflation et la croissance rapide des enfants, c'est bien d'avoir ces habits que l'on porte pas longtemps et que l'on jette. Mais derrière ces prix attractifs, la question de la composition des textiles revient régulièrement. On en avait parlé il n'y a pas longtemps dans cette émission. Ça revient encore sur le devant de l'actualité. Il y a plusieurs études qui s'intéressent en effet à la présence de métaux lourds et de substances chimiques utilisées lors de la fabrication ou de la teinture de ces tissus. Il y a des travaux qui ont été présentés il y a quelques jours lors du congrès de l'American Chemical Society, donc la société américaine de chimie. Ces travaux, ce congrès, viennent d'apporter de nouveaux éléments sur le sujet. L'étude qui a été menée par une équipe de la chimiste Camilla Devers, c'est à l'université Marion aux États-Unis, elle a analysé 11 t-shirts pour enfants qui provenaient de différentes enseignes de fast fashion et de magasins discount, et tous les échantillons dépassaient la limite réglementaire américaine de plomb, une limite qui a été fixée, et donc tous dépassaient cette limite. Les textiles aux couleurs vives, notamment le rouge et le jaune, présentaient les concentrations les plus élevées, et selon les chercheurs, cela pourrait s'expliquer par l'utilisation d'acétate de plomb comme étant des fixateurs de colorants. Et c'est une solution qui est peu coûteuse et qui permet d'obtenir des couleurs plus intenses et durables. Alors, la chimiste explique « J'ai commencé à avoir beaucoup d'articles sur la présence de plomb dans les vêtements de la fast fashion. Je me suis rendu compte que peu de parents étaient au courant du problème. » Et le risque ne se limite pas au simple port des vêtements. Les chercheurs rappellent que les jeunes enfants ont tendance à porter les textiles à la bouche, ce qui peut encore augmenter l'exposition au plomb. Non seulement les enfants sont les plus vulnérables aux effets du plomb, mais ils sont aussi ceux qui mettent le plus souvent leurs vêtements à la bouche. C'est ce qui explique justement Christina Avello, qui est membre de l'équipe de recherche. C'est pour cette raison que les chercheurs ont simulé dans une seconde phase les conditions de digestion afin d'estimer la quantité de plomb pouvant être absorbée lors du mâchonnage des tissus. Les résultats suggèrent qu'une exposition répétée pourrait dépasser les seuils d'ingestion quotidienne considérés comme sûrs pour les enfants. L'exposition au plomb, elle est connue pour ses effets graves. Les troubles du comportement, l'atteinte neurologique, les difficultés d'apprentissage, les retards de développement. Les enfants de moins de 6 ans constituent la population la plus à risque selon les autorités sanitaires américaines. Ces résultats s'inscrivent dans un contexte plus large de vigilance croissante autour des substances chimiques présentes dans les textiles pour enfants. Une étude qui avait été publiée l'année dernière dans la revue Toxics, qui avait ainsi montré que certains vêtements pour nourrissons pouvaient contenir des métaux lourds susceptibles d'être absorbés uniquement par le fait que c'était sur la peau, en fait, par contact cutané de façon prolongée, il peut y avoir une absorption. Plus récemment, en France, il y a plusieurs vêtements, dont une combinaison pour bébé vendue par Kiabi, qui ont été rappelés en raison de la présence excessive de ce qu'on appelle les PFAS, c'est-à-dire les substances chimiques persistantes. Elles sont considérées comme préoccupantes pour la santé. Ces alertes interviennent alors même que la fast fashion continue de se développer. On sait qu'il y a eu plusieurs ouvertures de points de vente de Shein en France, et à Paris et dans d'autres villes française. Donc on est sur une croissance économique de cette fast fashion, et l'enjeu dépasse la seule recherche. Si l'on veut changer les technologies de l'industrie textile, cela représente un coût important. Sans pression des consommateurs ou des autorités, il y a peu d'incitation à évoluer. C'est ce qu'explique la responsable de l'équipe de recherche. En attendant donc d'éventuelles confirmations à grande échelle, les chercheurs invitent les parents à rester vigilants et à privilégier des vêtements respectant les normes de sécurité, notamment pour les jeunes enfants. Donc voilà, ces enfants empoisonnés par des t-shirts à 2 euros la fast fashion. Cette étude donc accuse et confirme un petit peu ce que l'on craignait. C'est l'article de Futura Science qui nous explique cela. Voilà, et bien écoutez, cette émission est terminée. Donc j'ai fait le quart ou la moitié de ce que j'avais prévu, mais il est déjà 12h57, donc on va être obligé de rendre l'antenne pour la suite des émissions sur l'antenne de Graphite. Samedi prochain, émission particulière, et moi j'aime bien ce genre d'émission où on va passer une heure à échanger, à discuter avec des scientifiques, quels qu'ils soient. Alors c'est très souvent à la fête de la science que l'on fait cela, et puis ponctuellement au cours d'année, on a quelques invités dans cette émission. Ce sera le cas de la semaine prochaine, Sorosh Samier qui sera notre invité. Il est doctorant en bioprocédés. Alors on va essayer d'en savoir un petit peu plus sur les travaux de recherche, sur son parcours aussi. Et puis Sorosh est quelqu'un qui aime la médiation scientifique, la vulgarisation scientifique. Il aime et il pratique très bien. Il a participé la semaine dernière à la cérémonie de ma thèse en 180 secondes. On demande aux doctorants d'expliquer en termes vulgarisés pendant 3 minutes leur sujet de thèse, qui est un véritable exercice. Et il a réussi avec brio sa présentation. Donc on va passer une heure ensemble la semaine prochaine. Ça va être une heure très agréable. Je vous invite donc à nous écouter samedi prochain. La rediffusion de cette émission d'aujourd'hui, c'est mardi à 10h sur l'antenne de Graphite, le 94.9, et ceux qui nous suivent sur graphite.net. Je vous souhaite de passer une bonne journée et soyez toujours fidèles aux émissions de Graphite, votre radio curieuse. Bonne journée, à bientôt.